VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 27 juillet 2022. Avec vous Eric Manilakiza, voici d'abord le sommaire. Le Bénin, deuxième étape de la tournée du président Macron en Afrique centrale. Des députés français alertés sur les dérives autoritaires du régime du président Patrice Talon. L'ONG Initiative pour les droits humains au Burundi révèle l'envoi secrète des militaires et miliciens en RDC depuis 2021 pour traquer le groupe rebelle Red Tabara. En Somalie, un attentat suicide dans le sud du pays fait 9 morts, dont un haut responsable politique local. Pékin avertit Washington de conséquences en cas de visite de la chef des députés américains Nancy Pelosi à Taïwan. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Après le Cameroun, le président français Emmanuel Macron est au Bénin, deuxième étape de sa tournée africaine qui le conduira ensuite en Guinée-Bissau. À Cotonou, le chef de l'Élysée s'en est pris une nouvelle fois à la Russie. La sécurité et la restitution des objets d'art étaient aussi au menu. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans la capitale économique béninoise, Emmanuel Macron a réitéré la volonté de Paris de réarticuler sa coopération militaire avec les pays du continent en mettant l'accent sur la formation et une présence moins marquée des troupes françaises sur le continent. Ce que nous voulons faire, c'est de bâtir ensemble de manière très concrète la rénovation de la présence française et de ce partenariat en appui, en soutien, formation, équipement, accompagnement, formation des forces spéciales, opérations. Planifiée, a dit le président français. Le Bénin, pays côtier ouest-africain, fait de plus en plus l'objet d'attaques djihadistes. Par ailleurs, le président Emmanuel Macron a profité de sa conférence de presse avec son homologue béninois pour s'exprimer sur la crise qui se déroule à des milliers de kilomètres de là, notamment la guerre en Ukraine. Il accuse la Russie d'être une des dernières puissances impériales coloniales après avoir lancé ce qu'il appelle une guerre territoriale en Ukraine. Avant cela, le président français a aussi visité à Cotonou une exposition des 26 objets d'art récemment restitués au Bénin.
Dans l'est de la RDC, la police a été déployée mercredi dans plusieurs villes où des manifestations contre la mission de l'ONU ont fait 15 morts la veille, dont 3 casquets bleus. Des manifestations contre la MONUSCO ont éclaté lundi et mardi dans plusieurs villes du Nord Kivu. Des manifestants ont saccagé, pillé et détruit des installations de la mission onusienne à Goma, Butembo ou encore à Nyamilima. Dans la ville de Beni, des groupes de jeunes ont barricadé des artères dans le centre des affaires, où des magasins et des commerces sont restés fermés. Des centaines de militaires et miliciens burundais ont été envoyés clandestinement dans l'est de la RDC depuis fin 2021 pour traquer le groupe rebelle Red Tabara, affirmé ce mercredi dans un rapport. L'ONG Initiative pour les droits humains au Burundi. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Des témoignages de soldats, familles, membres du parti au pouvoir et de l'opposition ont été recueillis par l'Initiative pour les droits humains au Burundi. Selon eux, des militaires et des Ibonera Kure, membres du mouvement de jeunesse du parti au pouvoir, ont été secrètement déployés en RDC dès décembre 2021. L'ONU a recueilli des informations sur 17 incursions ou opérations de l'armée burundaise et des miliciens burundais dans le territoire d'Ouvira en RDC entre septembre 2021 et mars 2022, souligne l'ONG. L'armée burundaise a toujours démenti toute opération secrète, affirmant agir uniquement dans le cadre d'interventions connues par la communauté d'Afrique de l'Est, l'Union africaine ou l'ONU. Créé en 2011, le Red Tabara est le plus actif des groupes rebelles burundais. Ce mouvement, considéré comme terroriste par les autorités, a revendiqué en septembre une attaque contre l'aéroport de Bujumbura. En mai, le président Évariste Ndayishimiye s'est dit prêt à dialoguer avec les groupes rebelles burundais, basés dans l'est de la RDC.
La campagne pour les élections du 9 août au Kenya a une conséquence inattendue. Les distributions de billets, pratiques courantes notamment dans les meetings, ont provoqué une pénurie de petites coupures dans les banques, a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur. Les gens ne travaillent pas, ils se tiennent au bord de la route juste pour obtenir 200 shillings de tous ces blanchisseurs d'argent, a poursuivi le ministre. Ces pots de vin sont théoriquement passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à environ 17 000 euros et 6 ans de prison. L'Union européenne a pris note des résultats provisoires du référendum constitutionnel en Tunisie et a appelé les autorités à préserver les libertés fondamentales dans une déclaration publiée par le chef de la diplomatie, Josep Borrell. L'Union européenne constate que le référendum du 25 juillet a été marqué par une faible participation et insiste sur la nécessité d'un large consensus entre les forces politiques et la société civile pour toutes les réformes politiques et économiques importantes qu'entreprendra la Tunisie. La légitimité et la durabilité de ces réformes en dépendra, insiste la déclaration. En Somalie, au moins 9 personnes, dont un haut responsable politique local, ont été tuées mercredi à Marka, dans le sud du pays, par un kamikaze qui s'est fait exploser près d'un bâtiment gouvernemental. Le point avec Rosine Mounedzer.
L'attaque s'est produite devant le bureau de l'administration du district de Marka, à une centaine de kilomètres au sud de Mogadiscio, alors que le préfet Abdoulaye Ali Ahmed Wafo parlait à des gens, a déclaré Ibrahim Ali, officier de la police de Marka. Le préfet a été tué dans cette explosion avec 8 autres personnes, a-t-il ajouté. La police a ouvert une enquête, mais les islamistes Chebab ont revendiqué cet attentat suicide, affirmant avoir ciblé le préfet Abdoulaye Wafo. Des témoins affirment que le kamikaze, habillé en civil, s'est approché du préfet avant de détonner ses explosifs. Chassés des principales villes de Somalie, les Chebabs restent implantés dans de vastes zones rurales, d'où ils mènent des attaques contre des cibles gouvernementales et les forces de sécurité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a reçu 2 tests négatifs au Covid-19 après 5 jours de confinement et de traitement contre la maladie et peut désormais sortir de son isolement, a annoncé son médecin dans une lettre publiée mercredi par la Maison Blanche. Il avait été testé positif le jeudi 21 juillet. La Chine affirme une opposition ferme à une potentielle visite à Taïwan de Nancy Pelosi, patronne de la Chambre des représentants, et a averti que Washington devrait en assumer toutes les conséquences. Joe Biden doit s'entretenir demain avec le président chinois Xi Jinping. Le point avec Nanit Talani.
Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, envisage de se rendre le mois prochain à Taïwan car elle pense important d'afficher un soutien à cette île. Si les États-Unis s'obstinent à défier la ligne rouge de la Chine avec cette visite à Taïwan, ils feront face à de fermes mesures en réaction et devront en assumer toutes les conséquences, a averti la diplomatie chinoise. La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces et s'oppose à toute initiative qui donnerait aux autorités taïwanaises une légitimité internationale. Les avertissements de Pékin interviennent avant un appel téléphonique demain jeudi entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping. Selon la Maison-Blanche, les 2 chefs d'État vont discuter de la compétition économique, des tensions concernant Taïwan et la guerre en Ukraine.
Le Centre de coordination conjointe chargé du contrôle des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire a été inauguré mercredi à Istanbul, conformément aux accords signés le 22 juillet. Par ailleurs, les 3 ports ukrainiens désignés pour les exportations de céréales ont repris le travail, même s'il reste des efforts à faire pour assurer la sécurité des convois, a annoncé mercredi la marine ukrainienne. Le Kremlin a pour sa part assuré ne pas avoir d'obstacle à la reprise des exportations, même si les responsables ukrainiens ont toutefois indiqué à plusieurs reprises ne pas faire confiance à Moscou pour assurer la sécurité des convois. Des frappes ukrainiennes ont partiellement détruit un important pont de Kherson, ville occupée par les forces russes, ont annoncé mercredi les autorités russes à l'heure d'une contre-offensive ukrainienne dans cette région. La contre-offensive de l'Ukraine dans la région a déjà permis de regagner du terrain ces dernières semaines. En Italie, les dirigeants des partis appartenant à la coalition des droites, donnée favorite aux législatives anticipées du 25 septembre, se sont réunis mercredi pour se mettre en ordre de bataille, en dépit de leur profonde division sur celui qui deviendra Premier ministre en cas de victoire aux élections provoquées par la chute du gouvernement de Mario Draghi, qui expédie les affaires courantes. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Mohamedou Oumfa.
Au Cameroun, les forces de l'ordre ont saisi le 25 juillet plus de 90 000 emballages plastiques non biodégradables. Pourtant, depuis le 1er avril 2014, la fabrication, l'importation, la détention, la commercialisation et la distribution des emballages plastiques non biodégradables de moins de 60 microns d'épaisseur y est interdite. Le président namibien Hage Geingob a déclaré mardi que l'Afrique a le potentiel pour devenir un acteur majeur du marché mondial de l'énergie, s'exprimant en visioconférence à l'ouverture du deuxième forum de l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. Il a indiqué que les réformes dans le secteur de la gouvernance énergétique sont essentielles pour débloquer le potentiel des énergies renouvelables dans les domaines de l'hydrogène, de l'éolien, du solaire et des autres installations à faible émission carbonique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a profité de la réception mercredi de l'équipe féminine de football, sacrée championne d'Afrique, pour plaider en faveur de l'égalité des salaires entre les footballeuses et footballeurs. Insistant auprès des ministres des Finances et des Sports, il a ajouté, je cite, « Nous devons augmenter le montant de la rémunération de ces jeunes femmes qui ont fait la fierté de notre pays. Mais une fois que cela sera fait, nous devons faire en sorte d'éliminer de manière pérenne toute forme d'inégalité des salaires. »
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, avec vous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Football pour commencer, on a des nouvelles de Sébastien Haller.
Oui, le Borussia Dortmund devra se passer de sa nouvelle recrue pendant plusieurs mois. Le club allemand indique que Haller est atteint d'une tumeur au testicule et précise qu'il a été opéré avec succès. La semaine dernière, l'attaquant ivoirien avait appris le diagnostic la semaine dernière lors du stage d'été des Jaunes et Noirs en Suisse. Le joueur de 28 ans vient de rejoindre le vice-champion d'Allemagne en provenance de l'Ajax Amsterdam pour environ 31 millions d'euros.
Et en football toujours, Yacouba, les championnes d'Afrique sud-africaines ont été reçues ce mercredi par le président Cyril Ramaphosa.
Chose promise, chose due, dans une ambiance rythmée au siège du gouvernement à Pretoria, l'entraîneur des Bayana Bayana, Désiré Ellis, a remis le trophée de la CAN féminine au président Cyril Ramaphosa.
I'd like to say that today our hearts are filled with pride.
Je voudrais dire qu'aujourd'hui nos cœurs sont remplis de fierté.
With a great deal of joy.
Ils sont pleins à craquer de joie parce que vous, les Banyana Banyana, avez promis que vous rameniez la coupe à la maison et vous l'avez fait. La coupe est ici, elle n'est dans aucun autre pays du continent. C'est ici en Afrique du Sud, elle nous appartient.
Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Après 5 finales perdues, l'Afrique du Sud a remporté samedi à Rabat sa première CAN féminine avec un total de 6 victoires en 6 matchs dans cette compétition. Le parcours des dames a ravivé le débat sur l'égalité des salaires entre les Bayana Bayana et leurs homologues masculins. Selon la presse, elles ont touché pour leur titre des primes inférieures à celles perçues par les hommes pour un résultat inférieur, un quart de finale à la CAN 2019. Le président Ramaphosa a ordonné d'augmenter la prime des joueuses et plaidé en faveur de l'égalité des salaires entre les footballeuses et les footballeurs internationaux du pays.
Enfin, l'affaire Brittney Griner se poursuit à Moscou. Elle dit ne pas avoir eu l'intention d'introduire de la drogue en Russie.
La star américaine du basket féminin a affirmé lors de son procès près de Moscou avoir par erreur apporté du cannabis médicinal en Russie. Jugée depuis début juillet, elle ajoute n'avoir jamais eu l'intention de faire de la contrebande de drogue. La joueuse des Phoenix Mercury est venue en Russie en février pour y jouer durant l'intersaison américaine. C'est à son arrivée à l'aéroport Moscovite qu'elle a été arrêtée en possession, selon l'accusation, de vapoteuse et d'un liquide à base de cannabis. Britney Griner risque jusqu'à 10 ans de prison.
Et c'est tout pour les sports. Merci à Kuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manilakidza. Place au dossier du jour. En dépit des avertissements de Greenpeace et d'autres ONG locales et internationales sur les conséquences écologiques en RDC, Kinshasa a annoncé vouloir lancer des appels d'offres à la fin du mois de juillet pour attribuer à des tiers des titres d'exploitation d'un grand nombre de ces blocs pétroliers et gaziers situés dans les aires protégées. Eddy Isango a joint à Kinshasa le ministre des Hydrocarbures, Didier Bondimbu.
Nous avons lancé des appels pour l'attribution des droits des hydrocarbures, ce qui veut dire que nous allons attribuer des titres et signer de contrats avec des futurs partenaires pour pouvoir exploiter nos blocs pétroliers. Donc ce n'est pas une vente aux enchères, ce n'est même pas une vente des blocs. C'est pour pouvoir signer des contrats de partage de production qui va lier l'État congolais avec les opérateurs qui viendront. Avec le support, par souci de transparence voulu par le chef de l'État et notre loi sur les hydrocarbures, nous sommes obligés de passer par des appels d'offres. Comme ça, les opérateurs pourront se soumissionner, on va choisir le meilleur. Il n'y a pas de vente aux enchères, il n'y a pas de vente de blocs pétroliers.
Plusieurs ONG, parmi lesquelles Greenpeace, mettent en garde que cette opération pourrait mettre en danger aussi bien les aires protégées en RDC que les populations autochtones de ces zones-là.
Non, donc moi, personnellement, je ne vois pas les choses de la même façon parce que s'il y a quelque chose qui met en danger les zones protégées, c'est le M23 et tous ces groupes rebelles qui sont au niveau du parc Virunga et dans toutes ces zones-là. S'il y a quelque chose qui met les populations environnantes en danger, ce sont ces groupes rebelles qui sont dans ces zones protégées. Et là, on ne voit ni Greenpeace ni personne parler. Le gouvernement se bat tout seul. Donc je pense que ce que nous nous sommes en train de faire, c'est plutôt pour essayer d'augmenter le social du peuple congolais, augmenter le social des peuples autochtones de là où sera exploité ces gisements.
Pourtant, la RDC a pris des engagements, notamment lors du dernier COP26, pour continuer à être en fait les pays solution, c'est-à-dire garder les zones de tourbières et produire moins de carbone ou plutôt absorber plus de carbone dans le monde.
La RDC n'est pas rentrée en arrière par rapport à ses engagements. La RDC, déjà, de par notre constitution, les lois au niveau international prennent les dessus sur nos lois. Donc il y a une réalité, c'est que nous ne sommes pas rentrés en arrière. On a promis de faire un grand reboisement de plus de 800 000 hectares. Le travail a déjà commencé, nous ne sommes pas rentrés en arrière. On a promis de diminuer tout ce qu'on émet comme gaz à effet de serre de 25% jusqu'en 2030, on y tient, on va continuer à le faire. Et exploiter notre pétrole ne veut pas dire que nous allons décaper la terre ou bousiller tout ce qu'il y a comme tourbière, pas du tout. Aujourd'hui, la technologie a changé. Il y a 10-15 ans, dans certaines zones, on ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, la technologie a changé. Et aussi, il ne faut pas oublier que quand on parle de ces zones protégées, c'est peut-être que 10% d'un bloc. Parce que nos blocs, il y en a qui sont plus grands que la Belgique. Admettons que ce bloc-là, le bloc 4, c'est la Belgique. Vous pouvez exploiter à Bruxelles. Si les tourbières se trouvent à Liège, il n'y a pas d'impact. Ou si ça se trouve à Arlon, il n'y a pas d'impact. Donc, il faut qu'on arrête de faire peur aux gens. Je pense qu'on va explorer, exploiter et les choses vont bien se passer. Il n'y aura pas de retour par rapport à la biodiversité, pas du tout.
Et vous ne craignez pas qu'en retour, le Congo ne puisse pas bénéficier de l'argent qui est payé pour les taux d'absorption de carbone dans le monde?
Cette histoire
parce que le Congo espérait quand même.
A commencé il y a des décennies, le Congo n'a jamais reçu un seul euro.
Didier Bondimbu, ministre des Hydrocarbures du gouvernement de la RDC. Le dollar américain connaît une forte hausse depuis quelques semaines, galvanisé par la perspective d'une politique monétaire encore plus stricte ici aux États-Unis pour limiter l'inflation qui a atteint de nouveaux sommets en juin dernier, allant jusqu'à 9,1% sur un an. Un taux jamais atteint depuis novembre 1981. Les investisseurs estiment d'ailleurs qu'il est normal que la Fed opte pour un relèvement de 0,75% lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. La hausse du dollar par rapport à l'euro entraîne évidemment des conséquences sur les marchés mondiaux et africains. John Lindon s'est entretenu avec Idriss Linje Njoya, rédacteur en chef de l'agence Ecofin.
C'est une hausse qui a débuté depuis aujourd'hui 12 mois. et qui est allé progressivement. Mais c'est depuis quelques semaines qu'on ressent vraiment les effets de la hausse du dollar, déjà sur l'économie américaine, mais aussi sur l'ensemble des économies du monde. Déjà, il faut dire que à un moment donné, notamment pendant la COVID, la plupart des économies du monde a été mise à l'arrêt. Les échanges internationaux ont été ramenés à leur stricte nécessité. Mais une fois que les restrictions ont été levées et que l'économie mondiale a recommencé à démarrer, il y a eu deux choses. La première chose, c'est que tout le monde a voulu avoir des dollars parce que le dollar est la monnaie de paiement international. On a vu beaucoup de pays aller sur les marchés des eurobonds ou alors des dollars bonds, lever des fonds en dollars. Et forcément, parce qu'il y avait une importante demande en dollars, la valeur du dollar a augmenté. C'est le principe même de l'offre et de la demande. Et le deuxième effet qui a dopé la hausse du dollar, c'est que tout le monde voulait redémarrer l'économie mondiale en même temps. Et donc, tout le monde était en compétition pour le peu de biens qui étaient encore disponibles sur le marché mondial. Et du coup, les prix de ces produits ont augmenté. Et comme 60% du marché mondial est libellé en dollars, la demande du dollar a encore été plus aggravée.
Et pour les pays africains, la hausse du dollar, vous sembliez le dire tout à l'heure, signifie aussi qu'ils devront payer plus cher leurs importations. Comment atténuer les effets d'une telle situation dans les économies du continent?
Malheureusement, on ne peut pas atténuer les effets à court terme. C'est une situation conjoncturelle grave. La solution, tout le monde le sait, il faudrait que les pays du G20 libèrent complètement les DTS qu'ils avaient reçus lors de la nouvelle allocation par le FMI, c'était l'année dernière, et qu'une part importante de ces DTS soit accordée aux pays africains pour gérer la partie de leur balance de paiement qui supporte des investissements productifs. Des investissements productifs. C'est-à-dire que si, par exemple, les pays du G20 allouent 100 milliards de dollars de DTS aux pays africains, cet argent doit aller vers des investissements productifs. Des investissements qui permettent, par exemple, de finaliser une raffinerie qui n'obligera plus les pays à importer du pétrole.
Idriss Linj Njoya, rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site internet www.voafrique.com. Au Royaume-Uni, il n'y a plus que deux candidats dans la course à la succession de Boris Johnson en tant que Premier ministre. Et la politique à l'égard de la Chine est devenue un enjeu important de la campagne électorale. Reportage depuis Londres de Henry Ridgewell. Récit Claire Morin-Gibourg.
L'ancien chancelier Rishi Sunak et l'actuel secrétaire aux affaires étrangères Liz Truss sont en lice pour succéder à Boris Johnson. Moins de 200 000 membres du Parti conservateur vont voter pour choisir le prochain Premier ministre britannique dans les semaines à venir. En politique intérieure, l'inflation et la fiscalité ont dominé les débats. Pour la politique étrangère, c'est la Chine. Lors d'un récent débat télévisé, Truss a déclaré qu'elle prendrait des mesures fermes contre les entreprises chinoises comme TikTok.
Nous devrions limiter les exportations de haute technologie que nous faisons au régime autoritaire.
La ministre des Affaires étrangères a promis une position plus dure contre Pékin.
Après les épouvantables abus au Xinjiang, après les terribles actions à Hong Kong et l'indignation la plus récente, à savoir que la Chine travaille avec la Russie et les soutient essentiellement dans cette atroce guerre en Ukraine, nous devons adopter une position plus ferme.
Le rival de Madame Truss, Rishi Sunak, a qualifié la Chine de menace numéro un pour la sécurité nationale et mondiale.
En tant que Premier ministre, j'adopterai une position très très ferme pour m'assurer que nous défendons nos valeurs et que nous nous protégeons contre ces menaces, car c'est la bonne chose à faire pour notre sécurité.
Pour l'analyste Steve Chang, les candidats s'adressent à un électorat particulier.
Les membres du Parti conservateur sont plus préoccupés par la politique chinoise que le grand public du Royaume-Uni. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle les deux candidats au poste de Premier ministre s'engagent dans un débat sur la Chine, mais ne se concentrent que sur une seule question, qui est le plus indulgent envers la Chine, plutôt que quelle devrait être la stratégie du Royaume-Uni envers la Chine.
Faire correspondre les politiques en tant que Premier ministre avec la rhétorique de la campagne peut être un défi, affirme M. Chang. Pékin a critiqué le langage utilisé dans le débat sur le leadership britannique. Zhao Lijian, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a critiqué le langage utilisé.
Je voudrais exhorter certains politiciens britanniques à ne pas créer de problème avec la Chine ou à ne pas exagérer la soi-disant menace chinoise.
Le résultat du vote sera annoncé le 5 septembre.
L'ancien président Donald Trump a réaffirmé mardi qu'il
C'était le récit de Claire Morin-Gibourg. L'ancien président Donald Trump est revenu hier à Washington pour son premier grand discours politique depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche. C'est aussi son premier retour dans la capitale américaine depuis les événements meurtriers du 6 janvier 2021. Et il continue de dire qu'il a remporté les élections de 2020 sans preuve. Le reportage d'Anita Powell de VOA. Récit de Nanit Talani.
L'ancien président Donald Trump a réaffirmé mardi qu'il a remporté les élections de 2020. C'était lors d'un discours politique devant ses partisans qui marque son retour à Washington et un possible retour en politique.
J'ai couru la première fois et j'ai gagné. Puis j'ai couru une deuxième fois et j'ai fait beaucoup mieux. Nous avions obtenu des millions et des millions de votes supplémentaires. Et vous savez quoi? Ça va être une histoire pendant longtemps. Quelle honte c'était. Mais nous devons peut-être recommencer.
Dans un discours de 90 minutes, Donald Trump a également esquissé ce qu'il décrit comme un programme de loi et ordre qui adopterait une ligne plus dure à l'égard des immigrants et donnerait des pouvoirs accrus aux forces de l'ordre. L'ancien président de la Chambre, Newt Gingrich, partisan de Trump, répondant à la VOA sur ce qu'il pensait de la revendication de victoire de Trump.
C'est incroyable que vous puissiez prendre un discours de 2 heures et comprendre les 90 secondes qui vous intéressent.
La veille, la VOA a demandé à l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, si l'administration Biden allait regarder le discours de Trump.
Ce n'est pas quelque chose que je suis ou que nous suivons ici. Je ne sais pas de quoi il vient parler.
Certains analystes disent que la décision de Trump de semer le doute sur le résultat des élections est significative. Michael O'Hanlon est directeur de recherche en politique étrangère à la Brookings Institution. Il a parlé à VOA via Zoom.
Je suis prêt à accepter la plupart de ses interventions politiques et de ses idées, car au moins il respectait les règles. Au moins c'est ce qu'est une démocratie constitutionnelle avec des freins et contrepoids et un processus démocratique. Cependant, lorsque vous arrêtez de respecter le résultat des élections simplement parce que cela vous fait mal personnellement, c'est une autre paire de manches. Je pense que cela entre vraiment en territoire illégal assez rapidement.
Et les paroles de Trump peuvent même résonner hors du pays. Jérémy Souris est professeur d'histoire à l'Université du Texas à Austin. Il a parlé à la VOA via Zoom depuis Berlin en Allemagne.
Je pense que ce discours rend difficile, une fois de plus, pour les démocrates et les républicains de faire le tour du monde et de dire aux gens que notre pays est un phare de la démocratie. Quand environ 30% des Américains adhèrent à cette poubelle, quand les gens lui font une ovation debout, comme ils l'ont fait parfois, même s'ils ne remportent jamais un autre poste, cela montre que la démocratie n'est vraiment pas la force dominante dans la pensée américaine aujourd'hui.
L'ancien président Donald Trump s'est exprimé à l'America First Policy Institute, un think tank conservateur. Hasard du calendrier, Mike Pence, son ancien vice-président, s'est adressé dans la matinée à de jeunes conservateurs réunis toujours à Washington. L'ancien numéro 2 de la Maison-Blanche, qui semble nourrir des ambitions présidentielles, a admis être en désaccord sur les priorités avec son ancien patron, Donald Trump.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Eric Manelakis a été avec vous. Michel Joseph a assuré la mise en onde. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine à l'écoute de nos programmes sur VOA Afrique. Au revoir.